Delroy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.
Zone B, la rose écorchée. Après l'édition Mondo Macabro devenue obsolète, la Chat qui fume ressort dans une copie splendide, la rose écorchée de Claude Mulot, rareté absolue, bardée de bonus passionnants. Distribuée à l'époque antédiluvienne de la VHS sous le titre opportuniste The Devil's Maniac, la rose écorchée s'érige en beau mélodrame fantastique s'inspirant ouvertement de la trame narrative des Yeux sans visage, tout en essayant de retrouver le cachet atmosphérique des films gothiques transalpins des années 60 qu'affectionnaient particulièrement Mario Bava et Antonio Margheriti. Le scénario, s'il ne ménage guère de surprises, offre une variation habile de l'œuvre de Georges Franju. Frédéric Lansac, peintre renommé, tombe éperdument amoureux de Anne, fine fleur à la beauté fragile et incandescente. Lors d'un accident stupide, initié toutefois par sa rivale, la pauvre fille est défigurée et perd l'usage de ses jambes. Jalouse et aigrie, enfermée dans sa tour d'ivoire de solitude, elle s'aigrit de jour en jour, ne supportant plus la beauté chez les autres. Une jeune infirmière succombe au charme de Frédéric. Le peintre, acculé à un choix cornélien, va faire une découverte étonnante qui pourrait bien changer son existence. Il rencontre le mystérieux Romer, incarné par un Howard Vernon qui semble toujours prisonnier de l'univers de Jess Franco, l'horrible docteur Orloff comme modèle suprême. Ce personnage trouble est un chirurgien déchu par ses pairs, ne travaillant que de manière illégale pour la pègre. Spécialiste de la greffe, il modèle les visages et les reconstruit. Victime d'un odieux chantage, le médecin se retrouve devant l'obligation de refaire le visage d'Anne à l'aide de tissus humains. Évidemment, les vieux cadavres ne permettent pas la réussite de ces expériences médicales. Il faut donc trouver des spécimens tout beaux et encore bien chauds. Le récit puise sans complexe dans le grand coffre précieux du cinéma bis, les idées et les thèmes déjà aperçus chez Georges Franju, Jess Franco ou encore Ricardo Freda. La construction appuyée en forme de flashback alourdit sensiblement une histoire qui parvient à trouver ses marques dans une deuxième partie beaucoup plus morbide et inquiétante. Le contraste entre le romantisme échevelé du début et la noirceur de l'intrigue après l'accident se révèle pertinent grâce à un climat pesant, ankylosé à la lenteur aussi étrange qu'asphyxiant. Après l'amusant Sexirella, Claude Mulot, alors âgé quand même seulement de 28 ans, signe un deuxième long métrage tragique et poétique, baignant dans une ambiance gothique et surannée du plus bel écrin. Le raffinement de certaines situations, déployées selon un mode très littéraire, s'intègre à l'orientation ouvertement bis du métrage, ne lésinant pas sur des scènes triviales et scabreuses. Le décalage entre un récit très classique et une interprétation parfois précieuse, des dialogues maniérés et une esthétique fauchée s'inscrit dans le sillage du cinéma de Jean Rollin. Claude Mulot n'atteint que de manière fragmentée le génie graphique et sonore du metteur en scène français le plus sous-estimé de sa génération, mais parvient à envoûter grâce au montage plus dynamique que celui de l'auteur de La Rose de Fer. Ce n'est pas très dur, me direz-vous. La Rose écorchée demeure une œuvre hésitante, soignée, trop timorée finalement pour égarer nos sens dans des abîmes de perplexité et ou de fascination. Jean Rollin savait, lui, nous embarquer loin, très loin, dans un univers érotico-surréaliste devant autant Assad, Gaston Leroux et Georges Bataille, alors que Mulot se limite à un cadre étroit, on va dire en soignant particulièrement la scénographie. Alors ce qu'il perd en transgression, il le gagne en rigueur et en cohérence. Les cimetières brumeux piqués à la Hammer, les châteaux inquiétants peuplés de longs couloirs, d'escaliers en colimaçon, les peintures sombres ornementant des pièces éclairées à la bougie, les personnages secondaires atypiques et frics de service, les nymphes souvent dévêtues, tout cela, toute cette espèce d'esthétique baroque est au menu de ce conte macabre et moral. La Rose écorchée réussit donc l'alchimie envoûtante entre érotisme et épouvante. La direction artistique n'est pas le seul atout d'un film qui s'offre aussi un casting pour le moins étonnant. Aux côtés d'un Howard Vernon qui n'en finit plus de rejouer le même personnage avec un maniérisme délicieux, la très chaste Annie Dupéret incarne, en caméra subjective souvent puisque défigurée, la pauvre Anne, tandis que l'excellent comédien belge, second couteau habitué du cinéma français des années 50, Francis Lemaire, qui n'est autre que le père de Christophe d'ailleurs, critique funambule bien connu des amateurs, lui endosse le rôle de Frédéric Lansac. Alors plus insolite, et là c'est un peu la perle qui pourrait vous faire acheter le film, une certaine Elisabeth Tessier tient un rôle plutôt conséquent. Après quelques recherches, il ne s'agit pas d'un homonyme, mais vraiment de l'astrologue renommée et ex-conseillère, enfin si l'on peut dire, de François Mitterrand en matière d'astres et de prédictions fumeuses. Alors dissimulée sous le pseudo de Frédéric Lansac, n'étant on est jamais aussi bien servi que par soi-même, puisqu'il reprend le nom et le prénom de son, du héros du film, Claude Mulot deviendra par la suite, après l'excellent thriller westernien La Saignée, l'un des meilleurs représentants du X, du film pornographique gaulois, avec des titres cucultes tels que Le sexe qui parle et La femme objet.
Kilderoy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.